Mérieux, vous êtes éducateur, vous êtes enseignant, vous êtes prof, prof avec toutes les responsabilités, les soucis et la chaleur que cette appellation comporte. Vous êtes pédagogue, théoriste de l'éducation, mais un théoriste qui voit large au point de devenir théoriste et critique de la société. Vous êtes aussi auteur d'une série de livres qui vont des manuels scolaires qui précisent et réfléchissent sur les problèmes de l'enseignant in situ, là où il est, devant ses élèves, jusqu'aux livres théoriques qui tentent de réaligner la pratique de l'école. Dans votre dernier livre, le livre le plus récent, « Lettre à un jeune professeur », vous avez de tout cœur cherché les mots pour motiver une nouvelle génération d'enseignants. La question que j'aurais à vous poser est justement au sujet de la différence entre les générations. Car avec une vitesse de changement social qui ne cesse pas d'accélérer, que nous sommes parents, profs ou dirigeants, nous perdons très rapidement la compréhension du vécu des générations derrière nous. Je pense que l'enjeu essentiel est d'arriver à cerner et ressentir qu'est-ce qui peut motiver réellement les jeunes. Pour écrire ce livre, quel portrait avez-vous fait de votre nouvelle génération en France?
L'histoire du système éducatif français est l'histoire d'un système qui a été longtemps piloté et encadré par des militants. Des militants qui avaient été initiés par Jules Ferry, qui voulait envoyer les hussards noirs de la République instiller la laïcité et la recherche de la raison dans les campagnes françaises qui étaient en proie à la superstition et à la religion. Ils ont ensuite été des militants très engagés politiquement, en particulier engagés à gauche dans une perspective de rénovation sociale, voire de révolution économique et sociale. Et les enseignants, depuis une dizaine d'années, sont en train de passer d'une mentalité de militant à une mentalité de professionnel, professionnels parmi d'autres, mais professionnels qui ont besoin de sentir et de voir quel projet la société leur donne pour l'école. Au fond, pendant tout le 19e siècle et l'essentiel du 20e siècle, être enseignant, c'était se donner un projet de transformation sociale. Aujourd'hui, les enseignants sont plutôt en attente d'un projet qui leur serait proposé par le pouvoir politique et qui leur donnerait une place dans la nation. Ce qui fait qu'ils ont à la fois une grande conscience professionnelle, ils ont à la fois un souci de bien faire et en même temps une très grande expectative, une très grande inquiétude sur la place et le rôle qu'ils doivent jouer dans la construction de la société du futur. L'écroulement des grandes utopies, des grands récits, le récit marxiste, le récit chrétien, ont fait perdre aux enseignants la perspective d'une société idéale qu'ils contribueraient à construire. Et n'ayant plus cette perspective, ils sont aujourd'hui dans un registre où ce sont les compétences professionnelles qui l'emportent, mais où l'horizon politique n'est pas défini. Face à la multiplication des référentiels de compétences, face à l'organisation d'une formation technique, voire technocratique, je crois qu'ils ont besoin de voir aujourd'hui apparaître un projet qui, pour ma part, serait leur donner une place et une place forte dans la construction d'une société authentiquement démocratique. Mais cette évolution reste à faire. Et je crois que c'est le chantier du 21e siècle.
Ma deuxième question touche aussi sur le sujet des générations, mais cette fois-ci, c'est les vôtres, si vous voulez. Vous dites, même vous écrivez, que votre position comme activiste ou engagé de gauche vous est centrale. Pour beaucoup de gens de notre génération, pour ceux qui ont pris à cœur tout l'espoir et le désir de 68, je pense que la prise de position que vous avez épousée reste courante. Pourtant, nous avons tous été amenés à prendre notre place dans la société en assumant toute une masse de réalités quotidiennes que ça comporte. Je pense que quand vous avez travaillé avec Claude Allègre, vous avez refusé le titre de conseiller et insisté sur l'appellation chargé de mission. Qu'est-ce qui était le sens de cette insistance et puis comment est-ce que vous avez géré vos espoirs fondateurs et votre croyance politique à travers l'évolution d'une carrière vécue au sein d'une institution hautement conservateur, mais qui vous a amené aussi sur les scènes politiques et médiatiques?
Je crois qu'il y a deux missions différentes dans la République et qu'il est très important que notre pays et nos pays qui cherchent à être démocratiques ne confondent pas le rôle du politique et celui de l'expert. Le politique est d'abord un élu qui rend compte de ce qu'il fait devant ses mandants, devant ses électeurs. L'expert est celui qui peut conseiller, donner des idées, produire des études qui éclairent la décision. Il n'assume pas la décision en tant que telle. C'est le politique qui assume la décision et dans mon cas, Claude Allègre a non seulement assumé les décisions, mais il a assumé la démission, puisqu'il a dû démissionner, ne pouvant pas appliquer les propositions qu'il avait effectuées. Donc, je suis, en tant que citoyen, un militant pour une école plus démocratique, mais je me revendique aussi un universitaire et un expert, et à ce titre, je n'ai pas à me substituer au pouvoir politique. Je suis quelqu'un qui peut servir, comme toujours les universitaires, d'aiguillon au pouvoir politique, qui peut être chargé d'une mission pour étudier un point précis, mais en aucun cas, me semble-t-il, il revient de mélanger l'expert et le décideur. Ce serait, je crois, pour la politique mortifère. Cela reviendrait aussi à déposséder les citoyens du choix politique. Puisque l'expert a toujours tendance à considérer sa solution d'expert comme la solution politique, alors qu'il y a toujours des solutions alternatives, qu'il peut toujours y avoir d'autres experts, et que les vrais choix sont des choix de valeur et des choix politiques, ce ne sont pas des choix techniques. La technique est toujours au service de valeurs. Les experts peuvent exprimer des valeurs au titre de citoyens, mais les véritables valeurs, ce sont les politiques qui les décident et qui les décident en fonction du mandat de leurs électeurs. J'ai donc essayé pour ma part d'être à la fois un citoyen qui prenait sa part dans le choix et dans la réflexion sur les valeurs et dans le politique d'être un expert qui est clair mais qui ne se substitue pas à celui qui est naturellement mandaté par les électeurs.
Nous allons maintenant arriver à notre sujet, ce qui est l'éducation pour le 21e siècle. Et j'aimerais vous demander de nous parler sur ce sujet.
Alors peut-être sommes-nous éclairés sur ce sujet si nous faisons un petit retour en arrière et je vais me centrer sur l'histoire de l'école française, quitte ensuite bien sûr à dialoguer avec vous et à voir les comparaisons possibles avec le modèle japonais. Ce qui a marqué le XXe siècle, et je crois qu'il faut comprendre le XXe siècle pour donner quelques pistes pour le XXIe siècle, ce qui a marqué le XXe siècle, c'est que l'école française s'est massifiée sans s'être démocratisée. C'est-à-dire qu'à la suite de décisions politiques, mais aussi à la suite d'évolutions sociologiques, à la suite des pressions des familles, mais aussi à la suite des pressions des entreprises, nous avons fait accéder à l'école à peu près la totalité d'une tranche d'âge de jeunes jusqu'à 16 ans, et bientôt, probablement, même s'il y a quelques retours en arrière, jusqu'à 18 ans. La scolarité obligatoire à 16 ans a été décrétée en France en 1959. Ça a été à ce moment-là ce que nous avons appelé l'explosion scolaire, puisque de 59 à 70, on a inauguré en France un collège par jour, un collège pour 500 élèves par jour. C'est une explosion extraordinaire et c'est l'arrivée massive dans l'école d'un nombre considérable d'élèves. Alors la grande difficulté, c'est que cette arrivée massive des élèves, qui est une massification de l'accès, ne s'est pas traduite par une démocratisation de la réussite. Les élèves ont accédé à l'école, mais la réussite dans l'école n'a pas accompagné l'accès à l'école. Et toutes les études dont nous disposons aujourd'hui sur la société française montrent que les élèves qui ont accédé à l'école et qui n'y allaient pas auparavant ou qui étaient récupérés par le tissu social n'ont pas réussi à l'école et que l'école n'a pas produit la mobilité sociale qu'elle était censée produire. Et cela a engendré non seulement des déceptions, mais aussi des rancœurs. Parce qu'à partir du moment où des élèves qui étaient exclus du système scolaire se sont retrouvés intégrés dans celui-ci, accédant à celui-ci, mais qu'ils y ont échoué, et échoué massivement, on a pu leur dire, puisque vous échouez, mais que vous êtes accueillis, c'est de votre faute. En réalité, nous savons bien depuis longtemps, les études des sociologues sont très claires là-dessus, que les déterminants sociologiques, socio-économiques sont extrêmement forts dans la réussite scolaire, et nous n'avons certainement pas pris la mesure de la modification des pratiques pédagogiques qui auraient été nécessaires pour accompagner cette modification quantitative. Donc nous avons fait entrer quantitativement beaucoup d'élèves, mais nous n'avons pas réussi à démocratiser au sein de cette école l'accès des savoirs à tous ces élèves. Alors nous avons pourtant, pendant ce XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, essayé beaucoup de choses. On peut dire qu'on a grosso modo essayé trois pistes qui se sont avérées toutes les trois des impasses. La première piste, ça a été la mise en place pour les élèves en difficulté ou difficiles de filières ou de classes spécialisées au sein des établissements scolaires. C'est une piste qui a précédé ce que l'on a appelé le collège unique. Cette piste-là a échoué parce que les élèves scolarisés dans ces classes qu'on a appelées des filières se sont tout de suite sentis victimes d'une exclusion au sein du système. L'effet d'étiquette, l'effet Pygmalion, comme le disent les chercheurs américains, a joué massivement. Et ces classes sont très vite devenues des classes déversoires, qui étaient des classes sans débouchés. Alors, on a essayé ensuite une deuxième formule, qui a consisté à mettre en place avec des classes hétérogènes de niveau, c'est-à-dire des élèves qui avaient des niveaux différents, des groupes de besoins ciblés, identifiés sur des déficits scolaires particuliers. Par exemple, les élèves étaient mis ensemble et de manière hétérogène pour toute une série d'activités, activités linguistiques ou artistiques, par exemple, sportives, et ils étaient repris en groupe de besoins ou en groupe de niveaux en fonction de leurs problèmes personnels qu'ils pouvaient rencontrer en langue, qu'ils pouvaient rencontrer en mathématiques. Ce système des groupes de besoins ou des groupes de niveaux a lui aussi échoué, dans la mesure où ces groupes qui étaient censés être des groupes d'aide ponctuelle aux élèves se sont très vite stabilisés, où ils ont été regroupés, et où nous sommes revenus au système antérieur, c'est-à-dire au système de filière. La troisième hypothèse qui a été explorée en France, c'est celle d'un soutien individualisé par un système de réseau, qui consiste à implanter dans les établissements scolaires des groupes d'enseignants surnuméraires, c'est-à-dire en plus des enseignants normaux, à qui l'on donne la responsabilité d'apporter aux élèves en difficulté un soutien particulier et de les prendre soit dans la classe pendant le cours en aidant l'enseignant, soit à côté de la classe après le cours en leur apportant un soutien spécifique. Ces systèmes de réseau d'aide, pour utiliser la terminologie explicite, ont un peu fonctionné dans l'enseignement primaire avec des résultats très contrastés, plutôt négatifs, plutôt peu positifs, et n'ont pas été vraiment mises en place et acceptées dans l'institution secondaire pour des raisons culturelles. Chaque enseignant veut rester maître dans sa classe et veut rester celui qui décide de ce qu'il fait, et il répugne à avoir un collègue au fond de la classe qui va faire travailler certains de ses élèves. Et pour des raisons, il faut bien le dire, économiques et financières, parce que c'est un système qui coûte très cher. Quel est l'enjeu du XXIe siècle aujourd'hui, donc, à partir de l'échec de ces trois formules? L'enjeu, je crois, c'est que pendant la scolarité obligatoire, qui est donc chez nous de 6 à 16 ans, mais en réalité, la plupart des enfants entrent à l'école entre 2 et 3 ans. Mais pendant la scolarité obligatoire de 6 à 16 ans et avant les spécialisations nécessaires, l'objectif c'est, et nous l'exprimons, je l'exprime volontiers dans une formule, différencier sans exclure. Différencier sans exclure. Différencier parce que tous les enfants ont un profil différent, une histoire différente, des besoins personnels différents, apprennent à des vitesses différentes et avec des stratégies d'apprentissage extrêmement différentes les uns des autres, mais différencier sans exclure, c'est-à-dire sans créer des systèmes de ghetto dans lesquels on enferme certains types de différences. Et les événements récents que nous avons vus se dérouler en France montrent très clairement que c'est bien là où il nous faut faire porter l'effort. Organiser pendant la scolarité obligatoire des établissements qui servent de creuset social, c'est-à-dire où se retrouvent côte à côte des élèves de niveaux différents, d'origines différentes, de sensibilités différentes, d'ethnies différentes, puisque nous avons, vous le savez, des problèmes liés à l'immigration, mais sans exclure, c'est-à-dire en leur proposant à chacun à la fois des temps communs, où ils peuvent découvrir ce en quoi ils sont ensemble des citoyens, et des temps spécifiques où ils peuvent être pris en charge et pris en compte pour leurs besoins particuliers. Alors, différencier sans exclure est très difficile parce que ce que fait l'institution scolaire, en vertu d'une sorte de vitesse, de nature intrinsèque même de l'institution, c'est que chaque fois qu'elle différencie, elle génère des systèmes d'exclusion. Et nous ne savons pas vraiment aujourd'hui comment différencier sans exclure, sans générer de la rancœur sociale, sans stigmatiser certaines populations qui vont ensuite se manifester par des formes plus ou moins violentes de révolte. Alors, il y a là un enjeu institutionnel très fort, une seule école dans laquelle il y ait une découverte des fondamentaux de la citoyenneté qui sont communs pour tous les élèves, et au sein de cette école, une capacité à prendre en charge chaque élève, chaque groupe d'élèves à des moments particuliers en fonction de ses besoins. Alors je dirais, pour aller un tout petit peu plus loin, qu'à côté de ce versant institutionnel, il y a un versant bien évidemment pédagogique très important, qui tourne autour de la formation à la démocratie. Je crois que la démocratie est un système fragile, c'est bien évidemment un arsenal juridique, c'est une manière d'organiser l'État, mais cette manière d'organiser l'État suppose une façon de réagir chez les citoyens, suppose une capacité à penser par soi-même et à ne pas se laisser prendre par une quelconque que forme d'emprise sur les esprits, et elle suppose la capacité à construire le bien commun, à accéder au collectif. Et je crois qu'à côté de la transmission nécessaire des disciplines scolaires qui permettent de comprendre le monde, disciplines littéraires, historiques, géographiques, scientifiques, technologiques et professionnelles, au sein même de l'enseignement de ces disciplines, l'enjeu du XXIe siècle, c'est d'apprendre aux élèves à devenir des citoyens d'un pays démocratique, c'est-à-dire à devenir des élèves capables de penser, de réfléchir, de chercher la vérité loyalement plutôt que d'être dans le rapport de force et dans la violence, de chercher la rigueur plutôt que d'être dans la séduction ou dans l'intimidation, chercher aussi à concilier les intérêts individuels ou en tout cas à faire en sorte que ceux-ci s'inscrivent dans un intérêt collectif et ne se juxtaposent pas dans quelque chose qui ressemblerait à la loi de la jungle. Alors nous avons tenté en France de mettre en place depuis plusieurs années des modules spécifiques de formation à la démocratie que nous avons appelé éducation civique dans certains établissements, que j'ai fondé moi-même en 1998 dans les lycées en l'intitulant « Éducation civique, juridique et sociale », mais qui apparaissent comme mineurs et déconnectés des enseignements fondamentaux des disciplines. L'enjeu aujourd'hui, je crois, c'est de faire apparaître cette formation à la démocratie, non pas de manière déconnectée comme un supplément d'âme, comme disait le philosophe Bergson, mais de le faire apparaître comme étant consubstantiel à l'enseignement. Je dis souvent, en paraphrasant l'impératif catégorique de Kant, que chaque enseignant doit faire en sorte que, en même temps qu'il enseigne les disciplines qui sont les siennes, la lecture, l'écriture, les mathématiques, la physique, l'électronique, les langues, l'histoire ou la géographie, en même temps et pas à côté ou à part, il se soucie de la formation à la démocratie et à la clarté, à la posture intellectuelle d'un citoyen démocrate. Trois pistes que j'ai moi-même explorées et que j'ai tenté de mettre en place dans un certain nombre d'établissements depuis 1998 pour développer cette formation à la démocratie. Trois pistes. Systématisation de la recherche documentaire, parce que la recherche documentaire représente pour moi tout à fait autre chose que l'enseignement de type oral clérical. Par la recherche documentaire impulsée très tôt chez les élèves, l'élève prend l'habitude d'aller aux sources, de recouper les sources, de s'interroger sur la vérité de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il regarde, d'aller au texte lui-même plutôt que de croire les gens sur parole, et c'est une démarche authentiquement démocrate. Démarche documentaire, démarche expérimentale, et j'ai moi-même beaucoup travaillé pour implanter une démarche que nous avons appelée en France la main à la pâte, qui consiste dès le plus jeune âge à mettre l'élève en situation de pratiquer la démarche expérimentale pour vérifier par lui-même ce que c'est que la recherche de la probité, que la recherche de la vérité, que l'émission d'une hypothèse, que la vérification de ces hypothèses, etc. Et puis, une troisième piste, qui est évidemment la piste centrale et qui reprend en écharpe les deux premières, c'est l'effort que doit faire tout enseignant et qui est constitutif de la formation démocratique, je crois, c'est la distinction entre le savoir et le croire. Être capable de permettre à nos élèves d'accéder à cette distinction entre le savoir et le croire, tout en sachant que l'humain est complexe et que nous ne pourrons jamais complètement désintriquer, complètement séparer le savoir et le croire. Je pense qu'il est important de donner à l'école cet objectif. L'école, et c'est l'idée de laïcité au fond que je décline ici, l'école est laïque dans la mesure où elle transmet des savoirs qui n'abolissent pas le croire, mais à partir desquels le croire va pouvoir s'exprimer, le croire appartenant à la sphère privée et le savoir à la sphère publique. Le savoir est ce qui est vrai pour tout le monde et ce qui peut permettre à tout le monde de s'entendre. Le croire est ce qui est vrai pour chacun, qui relève de la conscience de chacun, de son imaginaire, de sa sensibilité, de sa façon de voir les choses. Aider les élèves à distinguer le savoir et le croire, c'est les aider à distinguer ce qui relève de l'accord commun entre des citoyens qui doivent être ensemble aux prises avec la même réalité et d'exprimer sur ce savoir commun ce qui relève de leurs opinions, de leurs prises de position, de leurs valeurs personnelles. Travailler sur le savoir et le croire, c'est travailler sur l'articulation du même et de l'autre, de l'identité et de la différence. C'est permettre aux enfants de se retrouver dans le même, c'est-à-dire dans ce qu'ils peuvent ensemble savoir et comprendre, et c'est leur permettre en même temps d'exprimer ce qui les sépare et qui les enrichit réciproquement, leur sensibilité, leur manière de voir, leur manière de concevoir les choses. Donc je crois qu'en termes de formation de l'homme pour ce 21e siècle, il y a un objectif qui est de donner à tous ses élèves le sentiment d'une appartenance commune à un monde commun, comme le disait Hannah Arendt, un monde commun qu'ils partagent, dont ils connaissent la réalité, les frontières, mais aussi les limites, les difficultés. Et dans ce monde commun, non pas éradiquer les différences, mais permettre à chacun d'exprimer sa sensibilité, son point de vue, pour que ce monde commun soit pris en charge et assumé collectivement par des individus complémentaires. Alors pour me résumer, cette école du 21e siècle, elle a un enjeu institutionnel très fort pour nous en France, qui est d'organiser une institution qui sait différencier les cursus sans générer de l'exclusion. Ça, c'est un problème institutionnel très difficile, mais que nous travaillons. Et elle a une vocation pédagogique et philosophique qui est de permettre à chaque élève d'échapper à toutes les formes d'emprise sur les esprits, de penser par lui-même en distinguant ce qui relève des savoirs objectifs de ce qui relève des convictions personnelles et en sachant faire jouer les uns avec les autres.